Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
C'est un beau cadeau que tu nous offres, Nathaniel, pour la fête des mères, d'être là avec ton ami Kim. Bonjour, Kim. Donc, bonne fête des mères à chacune des mamans. Est-ce qu'on peut les applaudir chaleureusement? OK. Premièrement, j'aimerais dire que je devrais être assis dans la salle en train de me faire enseigner comment mieux aimer ma mère. Mais comme je suis le pasteur, c'est moi qui dois parler. Mais je suis certain qu'il y a des gens ici qui pourraient m'enseigner là-dessus, puis ils feraient un meilleur job que moi. Donc, je veux apprendre ce matin à aimer mieux ma mère. Bon, on va dire ça comme ça. Et puis, donc, puisque je serais supposé être assis, puis de me laisser enseigner, puis que je ne me sens pas qualifié pour faire ça, parce que j'ai besoin de grandir un peu comme peut-être comme vous aussi, dans l'amour et l'honneur pour ma mère, je me suis assis hier, puis j'ai lu des messages. Fait que j'étais allé voir qu'est-ce que les gens avaient à dire sur la fête des mères. Puis, donc, je suis allé, j'ai téléchargé un message d'un monsieur Stan Covey. Je ne sais pas si, Juliane, tu as reçu mon PowerPoint. Excellent. Donc, Stan Coffey, un prédicateur que j'ai trouvé sur Internet, lui disait, son message était « Quoi offrir à la fête des mères? » Fait que je me suis influencé un petit peu de lui. Et puis, un pasteur d'une méga-église aux États-Unis, pasteur Jen Tenzin, je ne sais pas si je le dis comme faux, Franklin, qui a prêché un message « Apprends à honorer ta mère ». Je suis aussi allé faire un petit tour sur le site du patrimoine québécois, le RDAQ, et je vais aller voir un petit peu qu'est-ce que les femmes pensent des mères, qu'est-ce que les femmes disent des mères. Fait que j'ai tiré des bonnes informations qui vont m'aider à prêcher ce message-là ce matin. On va commencer par la prière. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour cette possibilité que j'ai, Seigneur, de m'arrêter avec mes frères et sœurs, arrêter à quelque chose qui est important, quelque chose qui est jeune dans notre folklore, qui date à peine de 100 ans, cette idée où on arrête, puis on pense à nos mères. On pense à ce qu'elles représentent pour nous. Et Seigneur, on leur donne de l'importance. En fait, elles en ont, Seigneur Dieu, qu'on veut reconnaître cette importance qu'elles ont dans nos vies. Je te prie, Seigneur, qu'à la fin de mon message, on ait le goût de manifester d'une manière ou d'une autre, Seigneur Dieu, ton amour, l'amour que tu as eu pour nous, qu'on puisse aussi la manifester aux mères dans nos vies, à nos épouses qui sont mères de nos enfants, peut-être à nos filles qui sont mères aussi de nos futurs petits-fils et filles. Amen. OK. Donc, il y a des choses que je ne voulais pas faire lorsque j'ai préparé ce message-là. C'était de motiver les gens par la honte, en disant, par exemple, on n'aime pas assez nos mères, on n'est pas assez reconnaissant pour nos mères. Ah, ça se peut-tu, tu sais, tout ce qu'ils ont fait, puis on n'est pas reconnaissant. J'ai essayé de ne pas prendre cette avenue-là parce qu'elle est trop facile à prendre. Et puis, on est dans une culture où la mère vieillissante souffre de solitude aussi parce que les familles sont éclatées. Ils sont aussi répandus à cause du travail, puis la vie, elle va très vite. Et donc, c'est facile de peser sur le bouton de « il me semble que je ne passe pas assez de temps avec ma mère, il me semble que je… » Je vais essayer de ne pas rentrer de ce côté-là. Les deux parents travaillent, même pour les jeunes mamans, c'est un monde qui est difficile quand les deux parents sont obligés de travailler aussi. La fête des mères, c'est la deuxième fête la plus dépensée en Amérique après la fête de Noël. Et peut-être que dans le fond, on achète une conscience quand on en profite à la fête des mères. T'sais. Puis, ce que je veux nous motiver ensemble, c'est non, j'aimerais utiliser une autre voie, la voie par excellence. 1 Corinthiens 13 nous dit que la voie par excellence, c'est l'amour. Et que si je n'ai pas d'amour, ben ça ne sert à rien, tout ce que je vais faire. Je vais commencer avec deux versets. Dans 2 Corinthiens 5, 14, le verset nous dit « Car l'amour de Christ nous presse. » J'aimerais ça aujourd'hui que le message, ce soit l'amour que Jésus a pour nous, qui nous presse pour nos mères. Deuxièmement, Romains 5, 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Si vous croyez au Seigneur Jésus, que vous avez reçu la vie éternelle, la Bible dit que vous avez reçu le Saint-Esprit et que cet Esprit-là est ce qui répand, et il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, ces deux passages-là sont extraordinaires. Dans le premier, le contexte de ce passage-là, c'est que Dieu dit qu'il était en Christ, en Jésus-Christ. Il presse, et qu'est-ce qu'il faisait? Il suppliait les hommes d'être réconciliés avec lui-même. C'est ça que ça dit. Il était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec Dieu. Puis quand Jésus, il vient sur la terre, il ne vient pas pour nous accuser, il vient pour nous sauver. Ça serait facile de pointer puis de dire, regardez, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Mais non, Jésus vient sur la terre, prend nos fautes, la conséquence de nos fautes, meurt pour ça. Puis il vient comme un sauveur, tu sais. Et le texte dit, il n'imputait pas les fautes aux hommes. Il est venu dans le monde, il est venu nous montrer, puis il n'est pas venu nous imputer nos fautes. Hein? Et donc, cet amour-là, c'est un amour de réconciliation. Et donc, il ne nous a pas aimés parce qu'on n'avait pas fait le mal. Puis aussi, une autre affaire, c'est que c'est pas vrai que toutes les mères, c'est des mères modèles, puis qu'ils nous ont toutes aimés comme gros comme ça. Puis des fois, on met tout ça égal, tu sais. Mais il y a des mères qui se sont surpassées. Puis il y a eu des relations brisées aussi par le péché. Il y a tout le côté de pardon. Il y a des enfants qui ont été placés dans des familles qui ont été abandonnés. Tu sais. Puis quand je fais un message à la fête des mères, il y a celui qui a perdu sa mère, il y a celui qui a été violenté, puis il y a celui qui a une très, très bonne mère. Tu ne pourrais pas avoir une meilleure mère que ça. Tu sais. Puis tu es là, tu ne peux pas juste comme un service funéraire, souvent on entend une élogie. Là, c'est toujours la personne, tu sais, elle a vécu comme le diable, puis elle est présentée comme un ange. Tu sais. Puis je trouve que c'est pas rendre justice à la personne toujours de faire ça. Tu sais. Alors, les mères aujourd'hui, je vais parler des mères comme ayant une grande valeur. Dans le fond, comme étant honorées et aimées par leur Dieu. Et si votre mère est encore en vie, que vous soyez motivé par l'amour que Christ a pour elle, à l'aimer comme ça. Dans le deuxième verset, en tant que chrétien, ce qui nous motive, ce n'est pas la culpabilité de ne pas en avoir fait assez. Ce n'est pas le paquet de fleurs après avoir mal agi. Tu sais. Ce n'est pas ça qui nous motive, nous, les chrétiens. Ce qui nous motive, c'est l'Esprit Saint que Dieu a fait habiter en nous et qui répand son amour dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit, une des choses qu'il fait, c'est de nous faire réaliser combien nous sommes aimés. C'est pour ça que dans mon message, vous allez dire, est-ce que ça mène vraiment à la fête des mères, tout ça, parce que tu me parles gros de l'amour que Dieu a pour moi. Eh bien, Jésus nous a dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et pour moi, un message qui va nous motiver, bien sûr, à aimer nos mères, c'est un message d'abord qui me fait réaliser l'amour que Christ a pour moi. Donc, ça va être le motivateur que je vais essayer d'avoir là, tout au long de mon message. Mon message, une des parties de mon message, comme je le disais, c'est de réaliser combien vous êtes aimé et que cet amour-là, Dieu veut le répandre au travers de vous à vos mamans. Premièrement, et le titre, je pense que c'est là qu'il va apparaître, trois mots, vous avez ça à apprendre. Apprenez-le avec moi. M, apprends avec un S, redonne. J'ai corrigé sur mon PowerPoint ici, mais pas celui que j'ai envoyé. Donc, trois mots à apprendre aujourd'hui dans mon message. M, apprends, redonne. Okay. Est-ce que vous les savez? Je vais vous les redemander. Hein? C'est vous qui faites la suite du message. Si vous ne savez pas le deuxième mot, on va pas la deuxième partie de mon message. Premièrement, aime. Aime ta mère à cause de sa valeur. Quelle est la valeur de ma mère? La valeur de ma mère, c'est la valeur que Dieu est prêt à payer pour la racheter. Toute la Bible, c'est une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Et la Bible dit que la relation entre Dieu et les hommes s'est brisé et que Dieu était prêt à payer un prix pour nous racheter du péché, comme si on était devenu esclave du péché. Puis le mot « racheter » dans la Bible est utilisé pour racheter un esclave hors de l'esclavage. Et Dieu va venir racheter ceux qui se sont vendus au péché. Il va les reprendre et le prix qu'il va payer, c'est la croix. Ça pourrait être une chaise électrique, mais ce n'est pas une chaise électrique. C'est un instrument de torture il y a 2000 ans. Et pourquoi nous la montrons fièrement? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas une chaise électrique? Pourquoi est-ce qu'on... Parce que la croix, c'est le supplice que notre Seigneur Jésus-Christ a payé. Et Jésus dit, il n'y a plus d'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et quand Jésus veut nous parler de ce rachat-là, il parle, il dit, il y avait un homme qui avait un grand terrain, puis il a mis son terrain en vente parce qu'il avait trouvé une perle de grand prix. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui, ayant vu une perle de grand prix, vendait tout ce qu'il avait pour avoir cette perle-là. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a quitté la gloire des cieux, la non-souffrance, on pourrait dire, la proximité de son Père céleste, être servi par les anges, et il a commencé une vie de sacrifice. Il est devenu comme un bébé qui s'est fait porter par Marie, allaité. Il a dû vivre, lui qui était le Dieu éternel, dans un corps d'homme. Pourquoi? Bien, parce que celui qui devait mourir devait être sans péché. La Bible disait qu'il y a un homme qui peut mourir pour des coupables, puis celui qui est coupable va devenir innocent de son péché. Puis le coupable, l'innocent va devenir coupable du péché de l'autre. Mais la seule transaction qui était possible, c'est si quelqu'un était sans péché, tous les hommes ont péché. Donc, ça faisait qu'il y avait juste Dieu qui pouvait prendre cette transaction-là, mais Dieu n'est pas capable de mourir. Alors, Jésus-Christ s'est fait homme pour pouvoir mourir. Puis, il a vécu une vie. Et dans Ésaïe 53, 800 ans avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, le prophète Ésaïe dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Et s'il a fait cela sur la terre puis qu'il est venu mourir sur la croix, c'est parce qu'il nous aimait. Votre mère a la valeur d'une perle précieuse d'un si grand prix que quelqu'un était prêt à vendre tout ce qu'il avait pour avoir cette perle-là. Votre mère a cette valeur-là. Mais vous dites, oui, mais il me semble qu'on a ça, on a des conflits, on ne se parle plus, ça fait des années où votre mère a cette valeur-là. Vous avez cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est la valeur que quelqu'un dans le marché que quelqu'un est prêt à payer pour. Dans un marché de collection, c'est celui qui est prêt à payer un prix que la valeur est attribuée à celui qui est prêt. Et Dieu a dicté votre valeur et Dieu a dicté la valeur de vos mères à la perle de grand prix, au prix qui était prêt à payer. C'était sa mort et sa souffrance sur la terre, mais sa mort sur la croix. Donc, pour votre mère, Dieu a estimé la valeur à sa propre vie de Dieu incarné. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul nous parle des relations interpersonnelles, des employés avec leurs employeurs, des maris avec leur épouse. Il parle aussi des épouses envers leur mari et vice-versa. Il parle aussi des parents avec leurs enfants. Et il dit aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Et ensuite, il dit au verset 1 et 2, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, comme si c'était le Seigneur. Hein? » Le verset dit, « Obéissez-leur comme s'ils étaient le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est la valeur, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce verset est cité de Exode 20, 12, qui est un des 10 commandements qui est le seul accompagné d'une promesse, ou le premier accompagné d'une promesse. Paul, il est dans le Nouveau Testament, il n'est plus dans l'Ancien Testament, mais il cite ce passage-là, puis il dit en passant, si tu veux être heureux et vivre vieux sur la terre. Incroyable. Qu'est-ce qu'a fait ta mère? Rien du tout. Elle a une valeur aux yeux de Dieu. Et parce qu'elle est ta mère, elle a besoin de cette valeur-là, que tu la reconnaisses, cette valeur-là. Dieu a mis une valeur sur la mère, donc il va regarder la vie de l'enfant, voir si le parent, le fils et la fille honorent son père ou sa mère. Et il va dire, ton bonheur Puis la durée de ta vie va dépendre de comment tu vas faire ça. Je trouve ça assez incroyable. Dieu honore vos mères, donc il veut que vous fassiez la même chose. Si vous êtes parent, ce pasteur-là, il posait la question suivante dans son message. Il dit, êtes-vous le type d'enfant que vous voulez que votre fils ou fille devienne? J'ai trouvé ça songé comme question. Hey, j'ai dit à ma femme, j'ai arrêté le message, je disais, hey, c'est intéressant. En tant que parent, suis-je en train d'être le fils ou la fille que je veux que mon fils ou ma fille devienne? C'est incroyable, c'est profond ça. Donc, je suis adulte et j'honore mon père et j'honore ma mère s'ils sont encore en vie. Honorer veut dire placer une valeur, établir une valeur. C'est timé dans l'original. Ça veut dire reconnaître cette valeur-là. Et cette valeur-là n'est pas attachée par ce qu'elle a fait, n'a pas fait. Elle a la valeur que Dieu lui attribue. Donc, dans ce passage ici, dans cet énoncé-là, qui je trouve être très biblique, on apprend par l'exemple. On enseigne par l'exemple. J'enseigne à mon fils et à ma fille à honorer leur mère et la façon que j'agis avec mes parents, c'est de cette manière-là aussi que je leur montre comment me traiter, d'une certaine manière. L'honneur ne vient pas d'un vacuum ou d'un vide. On est allé dans un souper où il y a eu une graduation, pas une graduation, mais une remise de mérite, des certificats. Puis celui avec lequel j'étais nominé, c'est un jeune de 19 ans à peu près. Mais j'ai demandé à Steph, comment tu as trouvé ce jeune-là? Elle a dit, il est à sa place, puis il est respectueux. J'ai redemandé un peu plus tard, elle a dit, il est à sa place, puis il est respectueux. Steph, ça l'a marqué de voir, mais tu savais juste à voir les parents, la qualité de parents qu'il avait, cet enfant-là. C'est incroyable. Tu sais, il te donne de la place. Tu sais, on était tous les deux à gagner le bouquet. Il nous le donnait. Tu voyais qu'il avait le cœur à la bonne place, ses parents-là, puis le jeune aussi. Tu sais. Mais il était respectueux envers Steph. Elle dit, j'ai vu, avec tout le monde avec qui il parlait, il était respectueux. Il a appris, d'une certaine manière, l'honneur. Et donc, c'est aux parents d'élever leurs enfants dans le respect de leurs propres parents. Et donc, on doit être concerné par le modèle d'honneur qu'on rend, même rendu adulte, la manière que je parle à la mère de mes enfants devant mes enfants encore devenus adultes. Il y a un collant sur les voitures qui dit « Be the change you wish to see in your children. » Sois le changement que tu veux voir dans tes enfants. Et la loi de Moïse, c'est un peu comme ça. Hein? Tu répéteras ces commandements à tes enfants qui leur diront à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. C'était quoi? Un de ceux-là, c'est « Honore ton père » et ta mère. Et donc, ça devait être transmis de parents à enfants en Israël, ces commandements-là. Tant qu'un mari est en vie, il devrait enseigner à ses enfants à respecter leur mère. Les enfants devraient sentir une telle unité entre le mari et son épouse, la mère de ses enfants, que s'il touche à la femme, il touche au mari. Hein? Il devrait sentir que de la façon que tu traites ta mère, c'est de la façon que tu m'as traité aussi. Donc, en tant que mari, on a cette responsabilité de faire respecter notre... Puis, tu sais, « Hey, parle pas à ta mère comme ça! » Ça, c'est si l'offense était plus élevée. Là, il faut être capable de graduer. Lui, il dit, j'ai répondu une fois de façon impolie à ma mère. Il dit, j'ai eu la joue tout engourdie. Il dit, je vous conseille pas de faire ça. Mais il dit, ça l'a fait une impression sur moi, dans sa face aussi. C'était tellement drôle de l'entendre dire ça, tu sais. Donc, nos enfants devraient sentir une unité, qu'ils doivent respecter leur mère. Pourquoi? Parce que c'est leur mère, point. Hein? Et donc, les enfants devraient sentir, c'est ça, je l'ai dit, les enfants vont apprendre à aimer leur mère de la manière que le mari aime leur mère. L'honneur n'est pas donné à cause du mérite de la mère, mais parce qu'elle est une mère. On a dit tantôt que l'honneur, ça voulait dire donner ou reconnaître une valeur. Hein? Les promesses qui nous sont données, d'honorer nos parents, c'est d'être heureux sur la terre, puis c'est de vivre vieux. Donc, on en tire une bonne récompense. L'honneur, c'est une disposition de cœur, c'est de reconnaître l'importance, la valeur que l'autre a. Hein? C'est une question d'attitude, mais comment ma mère va savoir aujourd'hui, en cette journée de la fête des mères, comment est-ce qu'elle va savoir que moi je l'honore? Bien, elle va savoir si je l'honore, si j'honore ce qu'elle honore. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui sont importantes pour ma mère, il y en a d'autres que ça passe inaperçu. C'est un petit peu comme parler une autre langue. On arrive à notre deuxième point. C'est quoi notre deuxième point déjà? Apprendre. Vous avez débarré le deuxième niveau. Excuse-moi, je fais des jeux vidéo à l'école, là, c'est ici. Apprends son langage d'amour. Quand je pense à ma mère, comment est-ce que ma mère sent qu'elle est aimée? Une question que je pose souvent à la mère de mes enfants. Comment tu te sentirais aimée aujourd'hui? Puis là, je demande ses clés de son cœur. Ding, ding. Donc, je suis en train de demander des clés de son cœur quand je fais ça, mais tu ne peux pas toujours demander à ta mère comment. Par contre, tu peux peut-être savoir comment elle se sent aimée. Comme dans tout langage, si tu apprendrais le mandarin ou une autre langue, tu deviendrais très inconfortable. Et si on te donnait le choix entre choisir ta langue natale ou la nouvelle langue, tu choisirais ta langue. C'est certain. Mais là, ce qu'on veut, c'est qu'elle se sente aimée. Ce n'est pas qu'on exprime notre amour, c'est que dans la manière qu'on va l'exprimer, elle le comprenne. Donc, je vais être mal à l'aise. Okay? Je vais être mal à l'aise parce que moi, mon verbe, c'est de rendre des services. J'en ai rien à faire d'acheter des cartes de fête. Okay? Tu vas toujours lutter contre ta nature propre. Toujours, toujours. Puis à un moment donné, fiou, tu vas faire des efforts, puis la personne va faire comme « tiling », t'es rentré dans son cœur. Et donc, pour ma mère, c'est quoi avec un S, apprendre? Son langage d'amour. Ah là là, je suis dans des cours de français de ce temps-ci, hein, puis je les vois en plus, mes fautes. Un chrétien, Gary Chapman, qui a écrit des bons livres sur l'éducation des enfants et aussi sur les relations dans le mariage, mais aussi sur les langages d'amour. Puis le texte dit comment ne parler d'amour, comment se parler d'amour. Dans la même langue. Donc, parler sur le même canal, finalement. Et donc, il y a quelques mots de langage émotionnel. Il y a les paroles valorisantes. Il y a les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Premièrement, les paroles valorisantes. Ne soyez pas comme cet homme qui, après 25 ans de mariage, a dit à sa femme, « Tu sais, lorsqu'on s'est marié, je t'ai dit que je t'aimais. Si ça change, je vais te le dire. » Hein? C'est-tu simple, ça, il me semble? C'est pas obligé d'être compliqué quand ça peut être simple. Puis si tu veux des fleurs, dis-moi, je vais t'en acheter. Ça ne marche pas, ça non plus. Hein? Donc, si je dis « je t'aime », ça peut être difficile pour vous. Essayez-le. Si elle est toujours en train de dire « tu ne sais pas à quel point je t'aime. Ah, je t'aime, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Elle est toujours en train de dire « je t'aime ». Puis là, toi, tu dis toujours « moi aussi, moi aussi ». C'est bien plus facile de dire « moi aussi » que de dire « moi aussi, je t'aime ». OK? OK, donc là, je vais traduire. Il faut falloir que vous soyez patient avec moi parce que là, je suis allé chercher des sources un petit peu à différents endroits, mais en anglais. Donc, c'était dans un journal. Je vais vous montrer le pasteur qui a cité cet exemple-là tantôt. On l'a montré au début de mon message. Mais c'est Stan. « Cher Abby », donc c'est dans un journal. Je me suis enrôlé dans l'armée à Pearl Harbor et 36 ans plus tard, j'étais en voie vers les Philippines et en route vers les Philippines. En route, les Philippines sont tombées dans les mains des Japonais et nous avons été redirigés vers l'Australie. 11 jours après que nous soyons accostés, j'ai rencontré la plus belle fille de tout le monde. Dans notre première rencontre, je lui ai dit que j'allais la marier. Et je l'ai mariée 18 mois après, en Nouvelle-Guinée. Et après plus de 57 ans de mariage et 2 enfants, ma chère bien-aimée Marie est morte 5 jours avant Noël. Nous nous étions dit que si un mourait avant l'autre, nous répandrions les cendres sur le dessus des montagnes. Mais j'ai trouvé que je ne pouvais pas me séparer de cette partie d'elle. Alors, Marie, tant qu'elle était vivante, disait souvent, « Tu ne sais pas à quel point que je t'aime. » Et je répondais, « Moi aussi. » Et je n'ai jamais dit, « Je t'aime. » Maintenant que ses cendres sont sur ma table de nuit, je lui dis plusieurs fois dans une journée combien je l'aime, mais il est trop tard. Même si je lui écrivais des beaux poèmes, je ne pouvais pas m'amener à lui dire ces trois mots, ou ces deux mots en français, « je t'aime », qu'elle voulait entendre. Alors que ma bien-aimée mourait et qu'elle était dans un état comateux, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de mots dans le monde pour lui dire à quel point je l'aime. Quelques heures après, elle a expiré. Je ne peux pas traduire cette partie-là, donc je vais au prochain. La raison pour laquelle j'écris dans ce journal est pour encourager les hommes à exprimer leurs émotions à leurs bien-aimés tandis qu'ils sont vivants. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont réticents à exprimer la profondeur de leurs émotions. Signé, je m'ennuie de Marie au Colorado. En anglais, c'est Missing Mary in Colorado. Donc, dans les langages d'amour, certains, c'est les compliments. Je veux dire, le cadeau, c'est quelque chose, mais le compliment, c'est vraiment wow. Tu sais. Puis, comment le voir? Bien, regardez ce qu'ils font. Regardez comment ils font. S'ils sont toujours en train de complimenter tout le monde, c'est leur langage. Eux autres, ils montrent l'amour comme ça. Et donc, essayez de parler cette langue-là. C'était lui qui avait cité justement, ben c'était ça, je l'avais mis. Ensuite, il y a les moments de qualité. Passer des bons moments ensemble. Il y en a d'autres que c'est les cadeaux, les services rendus. Si votre mère aime rendre des services, elle parle cette langue-là, alors qu'est-ce que vous faites? Si elle a des petits-enfants ou les frères et sœurs, vos frères et sœurs, vous allez laver ses vitres au printemps. Vous faites une journée razzia de saleté autour des châssis puis nettoyer tout le ménage du printemps. Vous faites ça, hey, vous, même pas besoin de dire « je t'aime ». OK? Bien, elle va le savoir tout de suite. Puis en plus de ça, vous allez avoir appris aux plus jeunes petits-enfants d'aimer. Il y en a d'autres, c'est le toucher physique. Vous avez été pris dans les bras, petit. Il n'y a aucun de vous qui était capable de ramper, monter sa toilette puis vous asseoir dessus. Hein? Votre mère vous a porté, bercé, resté debout la nuit, elle vous a touché physiquement. Il y a des hommes aujourd'hui hein, qui il y a des gens qui font n'importe quoi pour avoir des touchés physiques. Okay? Il y a des personnes âgées qui sont taponneuses. Pourquoi? Pourquoi sont taponneuses? Pourquoi ils ont besoin de toucher? Parce qu'eux autres, ils ont besoin d'un hug. Ils ont besoin de ça. Hein? Et donc, il y a des études qui ont été faites et sur le site justement que je trouvais Virtuose de la vie, qu'est-ce que vous gagnez à faire des hugs? Hein? Il y a une spécialiste là, qui s'appelle Virginia Satir qui est citée sur ce site-là. Le sous-titre de cet article-là, c'est « Ce que vous gagnez en faisant des hugs, des caresses ». Elle cite cette dame en disant « Nous avons besoin de 4 hugs par jour pour survivre, 8 hugs par jour pour nous entretenir et 12 hugs par jour pour notre épanouissement ». Donc, ne vous gênez pas de donner des caresses, des accolades à vos mamans, à vos grands-mamans. Si elle vous repousse comme ça, c'est peut-être parce que vous êtes dans un lieu public puis vous l'embarrassez, mais n'hésitez pas à donner des caresses, à flatter dans le dos. Je suis content de te voir, des mots de qualité. On est nombreux, et l'article disait, nous sommes nombreux à manquer au quotidien de marques d'affection, de témoignages d'attention bienveillante. Et nous en avons besoin pour vivre. Plus que ça, nous en avons besoin pour survivre, tant physiquement que psychologiquement. Dans les années 60, des expériences ont été menées en Roumanie et en Tchécoslovaquie sur des nourrissons abandonnés ou orphelins. Lorsqu'ils étaient nourris, certains étaient pris dans les bras et nourris au biberon, et d'autres étaient nourris au biberon. D'autres étaient laissés dans leur petit lit, simplement alimentés au biberon, sans que les infirmières ne les touchent. Ces derniers présentaient ensuite des problèmes de développement au niveau de la colonne vertébrale, et il est maintenant bien avéré que le contact physique est absolument vital, non seulement pendant notre enfance, mais aussi pendant toute notre vie. Pensez-y, une main posée sur une épaule, un câlin, un compliment, tu dis, c'est pas mon genre, ouais, justement, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pas ta langue, mais tu peux essayer de le faire si tu sais que l'autre est taponneuse, il est toujours en train de, ah, oh, je suis content de te voir, puis elle touche, elle touche dans les cheveux de tes petits-enfants, de ses petits-enfants, tout ça. Vous le savez, profitez-en. Parlez cette langue, apprenez à le faire. All right. C'est quoi le troisième mot? Redonne. Redonne ce que tu as reçu d'elle. Un article du Journal de Montréal du 16 février 2017 disait que ça coûte 243 000 $ pour élever un enfant avant l'âge de 18 ans, avant la période de l'université. Dans cela, il y a la perte de revenus durant les premières années, les dépenses obligatoires, les dépenses courantes et la garde des enfants. Donc, Nathaniel et Kayla, vous nous devez 586 000 $. On accepte Visa ou Mastercard. On peut faire des engagements de paiement aussi. C'est une joke. Est-ce que vous pensez vraiment que vos parents vont se tourner vers vous, puis le sacrifice qu'ils auront choisi de faire, autant le père que la mère qui prennent cette décision-là, parfois qu'il y en a un qui ne travaille pas, hey, ça, c'est pas compter la perte de revenus de celui qui n'a pas travaillé, qui aurait pu travailler. Okay? Il n'y a personne qui va se tourner vers vous et qui va vous dire, voici ce que tu m'as coûté. En tout cas, j'espère. En tout cas, ça se peut. Je l'ai dit, on avait besoin de pardon. Fait que ça peut arriver aussi que ça fasse ça. Mais ça a coûté, c'est un prix. Au début, oh, mon petit bébé, oh, il est tout cute. Il te donne une raison de vivre quasiment, tu sais. Mais après ça, viennent les factures de couche. Puis après ça, plus tard, c'est la mère a fait des choses qu'aucune personne dans le monde ferait, de ramasser des morceaux de vêtements souillés dans la salle de bain. Tu sais. Alors, on leur doit vraiment, vraiment à nos mamans un grand prix. Je veux qu'on soit sensibilisé que nos papas puis nos mamans ont payé le prix de leurs meilleures années de vie. À quel âge est-ce qu'on choisit d'avoir des enfants? 50 ans? 60 ans? Quand est-ce qu'on choisit d'avoir des enfants? Entre 20 et 40, il y en a qui choisissent de faire plus leur profession, puis de se placer un peu, puis après ça, ils ont des enfants. Mais c'est encore à la période où ton sommeil est encore correct, tu n'as pas trop de bobos de quincaillerie, là, tu sais, la mécanique, tu dis tu ne dors pas une nuit, tu te relèves le lendemain, ça te prend 2-3 jours à te refaire. Mais là, à un moment donné, arrive 40, 45 ans, puis là, il y a les bobos qui sortent, tu ne sais pas trop, il faut que tu consultes, ça dure quelques années avant que tu trouves que c'est intolérance ici, allergie-là, c'est comme le sommeil qui est affecté, etc. Fait que tes meilleures années ont été données à tes enfants si tu en as eu. Donc, vous, là, pensez un petit peu que vos parents, ça a été dans les meilleures années de santé. Ils auraient pu sortir, voir le monde, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Leurs amis sortaient, ils voyaient le monde, puis les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont occupés de vous. On savait qu'il y a, ça prenait quelqu'un à la maison pour vous, tu sais. Et ça, c'est important qu'on le reconnaisse à un moment donné. Selon une étude, votre mère a subi une pression si elle était à la maison et si elle était sur le marché du travail, dans la Gazette féministe, dans un article qui s'appelle « Mère au foyer 2.0 ». Je trouvais des informations intéressantes sur ça. Je vais en reparler plus tard de tout ça, OK? C'est-tu là? Je vais revenir à ça après. C'est assez bien détaillé, OK. En 1998, nos enfants sont nés en 96-97, fait que c'est pas mal dans nos années, nous autres. Il y a eu ce qu'on appelle les garderies subventionnées où on payait, je pense, c'était 7$ par jour, puis la femme pouvait aller travailler, puis elle passait pas sa paye dans les garderies. Avant, c'était 25$ par jour, les garderies. Et ce que ça a fait, c'est qu'il y a 18 % des femmes dans ces années-là qui l'ont utilisé, ce programme-là, et quelques années plus tard, presque un petit peu plus que 10 ans, 53 % des mamans profitaient de ce programme-là. Hein? Et puis donc, on a vu beaucoup de femmes en prendre le marché du travail. Rien comme le retour de la guerre dans les années 60, entre les années 30 et 60, où pendant qu'il y avait la guerre, les femmes sont rentrées à shop pour faire des munitions, puis là, les femmes ont commencé à goûter, à faire de l'argent, puis ont aimé leur indépendance, ce qui n'était pas mal en soi. Hein? Mais là, si on y allait maintenant sur le marché du travail, c'était toujours dans le mouvement féministe, c'était la femme, elle a le droit, autant que l'homme, de profiter d'avoir un revenu, de se payer des choses, puis le droit à l'éducation. La femme a arrêté d'être statut mineur, je pense, des années 60, fin des années 60. Avant, elle était mineure, c'est-à-dire qu'elle avait besoin de la permission de son mari pour remplir des formulaires. Elle était vraiment au statut d'enfant. Et notre siècle a vu vraiment la femme avoir des droits égaux à ceux de l'homme. Mais là, il se passe quelque chose, là. Là, les femmes, c'est bien beau, mais il faut qu'ils payent, le couple, il faut qu'ils payent 25$ par jour pour aller à la garderie. Fait que même si on dit que c'est possible que la femme, on n'a pas les moyens. Donc, il y a eu le régime parental qui aide les parents lorsqu'il y a une grossesse aussi, hein, le RQAP et tout ça. Mais là, les femmes sont allées sur le marché du travail. Puis là, depuis à peu près le début des années 2000, qu'est-ce qu'on voit? On voit des femmes très scolarisées qui décident de ne pas aller travailler. Ils ont un diplôme haut comme le bras parce qu'ils voulaient prouver qu'eux autres aussi avaient le droit d'être sur le marché du travail, puis c'est correct, qu'ils avaient le droit à la formation, qu'ils avaient le droit à l'éducation, puis c'est correct. Mais il y a quelque chose qui les attire à la maison pendant les premières années du poupon. Et là, les féministes disent, ils sont en train de casser un petit peu notre... Mais regardez bien ce que les féministes ont dit dans cet article-là. En faisant du modèle de la mère au travail la norme absolue, nous ne nous sommes pas attachés au fait que cette avenue ne convenait pas à toutes. Dans l'équation femme plus travail égale nécessité, donc c'est nécessaire qu'une femme travaille, nous n'avons pas tenu compte de la variable choix. Et dans cet article, il parle des femmes à maison qui vivent de la dépression parce qu'on considère que la femme qui est à maison, ce n'est pas un travail. Alors que c'est une noble cause que de dire, sais-tu quoi, les premières années de ce poupon-là, je vais rester avec, je vais être dans son développement jusqu'à temps qu'il y ait la maternelle, puis après ça, on verra. Tu sais. Demandez-le si votre mère est restée à la maison, si elle sentait que les gens disaient, toi, tu ne travailles pas. Demandez-le, ça s'est déjà fait dire, toi, tu ne travailles pas. Puis vous allez voir qu'on a une société ingrate qui met un enfant sur la performance, puis que les mamans qui ont choisi de ne pas faire de salaire puis de s'occuper de vos petites fesses, on leur dit qu'ils ne travaillaient pas. Alors qu'ils ont fait beaucoup de travail en restant à la maison, ils se sont consacrés à leur famille. Et c'est un choix qui est noble. Ensuite, 33 % des mères au travail subissent un stress excessif en raison du manque de temps. Si votre mère a dû aller travailler alors que vous étiez un enfant en bas âge, demandez-y si elle trouvait ça stressant. Puis 33 % une sur trois va vous dire que c'était très difficile ces jeunes années-là. Alors que, puis dans une étude en Caroline du Sud, Caroline du Nord, les mères au foyer sont plus vulnérables à la dépression que les mères en emploi. Parce que ce qui a créé le fait que la femme est à la maison puis qu'elle est sous le chef, qui est comme l'empereur de la famille, puis elle est soumise. Là. Cette vision du monde-là, elle ne vient pas du christianisme qui parlait que la femme, ce qu'on s'attendait de la femme, c'est qu'elle élève bien ses enfants puis qu'elle reste à la maison. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'ère industrielle. C'est quand on faisait des chandelles puis on voulait faire plus de chandelles. Quand on faisait des pièces mécaniques puis on voulait en faire plus. On a commencé ce qu'on appelle l'ère industrielle, c'est que on pourrait en faire plus, on pourrait en vendre à l'extérieur. On n'aura plus besoin de nos voisins, on va pouvoir les acheter à shop. Fait que là, on a envoyé le mari à shop, puis le soir, il revenait fatigué, puis il prenait une brosse avec ses chums parce qu'il avait travaillé fort, puis on disait à la femme, toi, occupe-toi des enfants. Savez-vous que dans les années 1800, ceux qui écrivaient les manuels d'instruction comment élever un enfant, c'était les hommes? Saviez-vous que c'est prouvé que les hommes faisaient autant de tâches ménagères dans les années 1800 que la femme? Mais là, on a fait quoi? On a déstabilisé complètement notre économie en faisant production, 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 production. Les enfants qui avaient l'habitude de travailler dans l'entreprise familiale, Bien, eux autres, je veux dire, ils vont en garderie 6 heures du dîner. Avant, ils allaient servir les clients sur l'heure du dîner. Puis c'était la mère qui travaillait avec le père pour faire. Il y avait tout le côté village, le côté de communauté. Mais là, la femme, là, dans l'ère industrielle, elle s'est sentie mise à l'écart. Puis la seule chose qui était bonne, c'était de tenir une maison en ordre, éduquer la moralité. Puis en plus, l'empereur est devenu un enfant. Puis j'entends souvent des messages à la fête des mères, puis le père, il est un des enfants qui manque de gratitude. Tu sais, non, l'homme, il est appelé à être un homme de Dieu, puis à prendre sa place de chef du foyer, pas un autre enfant de la maman. Puis on est dans une société matriarcale, là, où on traite les hommes comme des enfants. Et l'Église, elle ne fait pas exception à ça. J'entends des messages, puis on insulte l'homme en disant que c'est juste un enfant. Bon, il ne donne pas sa place pour devenir l'homme qui est appelé à être. Traite-le comme un enfant, il va agir comme un enfant. Bon, OK. Ce n'est pas un message contre les pères non plus, ni contre les mères. Mais les mères au foyer sont... Hey, ça, écoutez, demandez à votre mère. T'es-tu senti stressé durant les premières années si tu étais obligé de travailler? La deuxième question... Tu t'es-tu senti comme pas, tu n'avais pas de valeur parce que tu n'avais pas un travail? Vérifiez ça. Et ça va être le temps de dire, sais-tu quoi? Merci. James Thompson, qui est un expert de la famille aux États-Unis, il y a un ministère qui s'appelle en français Focus Family, en anglais Focus on the Family. Encore une fois, c'est une lettre en anglais. Je vais vous demander votre patience. C'est une femme âgée qui écrit une lettre à ses petits-enfants pour la fête des mères, prochaine acétate. À tous mes enfants, je suppose que ma fête qui s'en vient a fait partir mes pensées pour vous écrire ce petit mot. C'est un bon moment aussi pour vous écrire sur ce que j'aime et que j'ai vraiment, que je n'ai jamais assez à avoir, et ce sont tous des choses gratuites. Je veux des choses intangibles. Ah, j'aimerais que vous veniez vous asseoir avec moi et que vous soyez relax, qu'on puisse parler ou être en silence. Je voudrais juste qu'on soit ensemble. J'ai besoin de votre patience. Je n'entends plus bien. Je vous fais répéter. Je dois vous demander de répéter et j'ai besoin de votre patience. Quand je pense souvent à mon passé, puis je radote. J'aimerais aussi que vous soyez tolérants que les années ont endommagé mon corps. J'aimerais aussi que vous compreniez mes habitudes personnelles. Je renverse des choses. Je perds des choses. Je m'énerve quand je perds mon compte de banque, mes papiers de compte de banque ou mes factures. Je ne me souviens pas c'est quand qu'il faut que je prenne ma médication. Je les ai-tu déjà pris? Je prends souvent des siestes. Je fais souvent des siestes parce que je veux aider à passer mes journées. Alors, vous l'avez. Ce que je veux, c'est du temps, de la patience et de la compréhension. Ces choses ont un prix inestimé. Finalement, dans sa lettre de l'apôtre Paul, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors, c'est une bonne chose de savoir que les yeux de Dieu sont sur les petits moineaux et qu'il prend soin de moi. Finalement, je réalise que d'être vieille, ce n'est pas mauvais du tout. Avec amour, maman. Un des pasteurs disait, aimez votre mère quand elle vous donne le meilleur de ses années. Aimez votre mère quand elle ne peut plus rien vous donner. Aimez-le à cause de leur valeur. Vous savez, dans le temps que Jésus, et j'arrive à la conclusion, dans le temps de Jésus, les veuves étaient les délaissés de la société. Si elle était veuve de son mari, souvent c'est lui qui avait le métier elle tombait démunie dans la société. Et assez que Jacques, quand il va décrire la religion pure, il va la décrire en ces termes. C'est la religion pure et sans tache qui prend soin de la veuve et des orphelins. Jacques va décrire ça comme ça. La religion chrétienne est le moyen par lequel la mère a été remise en valeur. Pourquoi? Parce qu'une veuve n'était pas supportée par ses enfants. Elle tombait clocharde. Elle tombait itinérante. Et l'Église chrétienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une bourse commune. On appelait ça le rôle. Et pour qu'une veuve soit inscrite sur le rôle, il fallait qu'elle ait exercé la piété, donc qu'elle était elle-même une femme proche de Dieu, puis qu'elle ait pris soin des siens durant son vivant. Puis on leur donnait quoi? On leur donnait des tâches à faire. Ça vient aider, vient travailler à l'Église, tout ça. On les impliquait parce qu'elles ne devenaient pas oisives, puis elles ne devenaient pas, elles ne souffraient pas de solitude. Mais deux, on prenait soin de leur bien matériel. Hein? On leur donnait de la nourriture. On appelait ça servir aux tables. Puis l'Église, elle a commencé à prendre soin comme ça des veuves. Mais l'Église, elle a dit, par exemple, elle enseignait aux chrétiens de prendre soin de leurs propres parents. Et donc, regardez bien ça ici, qu'est-ce que Paul dit à Timothée. Dans la version sommaire, qui est une translittération, ça veut dire que c'est pas traduit mot pour mot, c'est traduit avec le sens le plus proche de ce qu'on comprend aujourd'hui. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à traduire leur attachement à Dieu dans l'attachement à leur propre famille, qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. Une veuve qui était sans moyens, qui avait petits-enfants ou enfants, ces petits-enfants-là devaient apprendre que servir Dieu passait par servir l'autre, puis l'autre avant tout, avant tout, avant tout. Le mot, c'est avant tout. Apprendre avant tout. Est-ce que mon parent manque de quelque chose? On sait qu'aujourd'hui, avec tout notre bien-être social, le régime des rentes, c'est peut-être pas de l'argent qui manque nécessairement, mais des fois, oui, pour arrondir les fins de mois. Alors nous, quand on était petits, on nous a donné à manger, on nous a vêtus, on a pris soin de nous, puis la Bible nous dit, écoute, là, c'est le temps de regarder à ton parent qui va vieillir et de te poser la question, il manque-tu quelque chose? Puis peut-être que ce qui manque, c'est quelqu'un qui vient réparer un poteau de la galerie. Ça peut être aussi simple que ça. Hein? Et la piété, Dieu dit, hey, je vois ça comme un acte de piété que tu prennes soin de ton parent comme ça. Hein? Et donc, c'est important. Et je finis avec ceci. Vous savez que dans la fête des mères, c'est un jeune folklore. Hein? Ça date de à peine 100 ans. Anna Garavis, qui s'est battue pour sa mère, elle-même n'était pas mère. Hein, mais elle réalisait que c'était important de reconnaître le travail des mères. Elle a écrit une centaine de lettres à des hommes politiques. Finalement, en 1907, il y a eu le premier service religieux. Encore une fois, c'est l'Église chrétienne qui est à l'avant-plan de la fête des mères. Pourquoi? Eh bien, on a commencé à faire des célébrations dans les églises le 10 mai que ça se passait. Hein? Et puis en 1907, il y a eu le premier service religieux. En 1913, toute la Pennsylvanie a fêté la fête des mères le 10 mai, puis ensuite en 1914, sous le président Woodrow Crow, je ne sais pas si je le prononce comme faux, la fête officielle des États-Unis pour la fête des mères a été placée comme étant le deuxième dimanche de mai, puis nous autres, bien, on suit nos voisins, les Américains, souvent dans bien des choses, donc on a décidé de suivre cet exemple-là aussi. En conclusion aujourd'hui, sur les 7 parole que Jésus a dit sur la croix. Imaginez que je suis en train de me faire écraser sous un char, puis je suis en train de crever. Là. Puis là, je dis à Nat, aime ta mère. Ça serait à peu près ça que Jésus a fait sur la croix. Jésus est sur la croix, puis il dit 7 paroles sur la croix, puis il y a une de ces 7 paroles-là, c'est « Prends soin de ta mère ». Hein? Regardez ça. Première parole, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Eux autres sont en train de crucifier un homme qui est trop une grande lumière pour eux, puis il les met trop en lumière, fait qu'ils sont en train de l'accuser, ils sont en train de le crucifier, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de crucifier Dieu incarné. Deuxième parole, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À qui il dit ça? À quelqu'un qui ne mérite pas pantoute le paradis, quelqu'un qui a reçu la peine de mort parce qu'il a tué. Il est là parce que tu es ce gars-là, puis Jésus se tourne, puis parce que ce gars-là, il a une valeur. Puis parce que ce gars-là a accepté Jésus en disant, « Je sais que toi, tu n'as rien fait de mal. » Il a reconnu l'innocence du Seigneur Jésus. Jésus dit, « Sais-tu quoi? Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. » Et ça, c'est la valeur que Dieu donne à chaque humain. S'il l'a fait pour ce tueur sur la croix, si vous n'avez pas tué, crime, vous avez des chances. Puis si vous avez tué aussi, parce que Dieu, il n'y a pas rien qui ne pardonne pas. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole sur la croix, Jésus dit, Jésus voyant sa mère auprès d'elle et le disciple qu'il aimait, il a dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis au disciple, « Voici ta mère. » Mais Jean, ce n'était pas son fils. Puis Marie, ce n'était pas sa mère. Pourquoi il n'a pas demandé à Jude ou à Jacques? Pourquoi il n'a pas demandé à ses deux autres frères? Parce qu'il y en avait quatre, puis il y avait au moins deux sœurs. Ils étaient sept. Marie n'a pas chômé. Joseph, il est mort quand il était jeune. Joseph, son père, on en entend parler quand il est jeune, mais personne n'entend plus parler pendant tout. Il est mort en bas âge. Elle était une veuve. Qui a pris soin de sa mère? Jésus. Qui a pris soin de sa mère? Jésus, ses frères et ses sœurs. Et qu'est-ce qu'il dit sur la croix? Il dit à Jean, c'est maintenant ta mère, puis moi, c'est lui, c'est ton fils. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 7, il n'y a aucun de ses frères et sœurs qui croyaient en lui. Puis pour Jésus, la chose la plus importante qu'une mère peut savoir, c'est d'accepter Jésus. Parce que pour le moment, Marie, on ne sait pas, mais c'était sa mère. Mais il fallait qu'elle devienne sa sœur. Parce qu'une fois, Jésus est en train de prêcher, puis Marie a dit, « Hey, ta mère et tes frères veulent te voir. » Puis Marie, elle voulait comme prendre l'étiquette, de « Hey, je suis sa mère, faites arrêter tout, là, puis moi j'arrive, je suis sa mère. » Puis Jésus dit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui font la volonté de mon Père. » Ta fille, ton fils, ta mère ne sera plus ta mère au ciel. Ça va être ta sœur. Les liens de mari et femme n'existent pas non plus au ciel. La Bible nous dit qu'on va être comme des anges dans le ciel qui ne prennent ni homme ni femme. On va être donc, ça veut dire, profitez-en pendant que vous êtes sur la terre. Parce qu'après ça, vous allez vous voir sûrement, mais vous ne serez plus conjoint, conjointe, papa, maman et fils. Mais vous allez être frères et sœurs. Puis pour Jésus, ce qui compte le plus, c'est que ça, la vraie famille qui dure pour l'éternité, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, puis qu'est-ce qu'il a fait à la croix. Donc, pour Jésus, ce qui était le plus important, c'est que sa mère puisse accepter Christ, son Sauveur, parce qu'il y a un détachement entre son fils et son Dieu. Puis il fallait qu'elle comprenne qu'il était son fils, mais il devait aussi être son Dieu. Puis peut-être qu'elle l'avait déjà compris, mais dans tous ses enfants, il n'y en a pas un qui est là à la croix. Il n'y en a pas un qui est là pour subir le mépris qu'on fait à leur frère. Mais Jean, lui, est là. Jésus disait, ce gars-là, il va être un bon fils pour toi. Puis c'est écrit, et ce jour même, Marie alla vivre chez lui. Wow! C'est le gars, il est là, il est en train de mourir, prends soin de ta mère, fais qu'il manque de rien. C'est comme ça. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que Jésus, il n'est pas juste en train de nous dire que c'est pour le ciel qu'il nous sauve, il nous sauve pour la terre aussi. Il nous a donné des parents, il nous a donné une famille, puis il vous a donné comme fils et filles de ces mamans-là. S'ils sont encore en vie, à cause de leur valeur, aimez-les. Et je pense que mon message est direct fini comme ça. Fait que j'espère que ça vous a inspiré, puis que vous avez trouvé peut-être des motivations par l'amour de Dieu, d'aimer vos mamans, s'ils sont encore avec vous autres. Sinon, sais-tu quoi? Il y en a dans le folklore, dans notre jeune folklore de la fête des mères, il y en a qui prennent l'habitude d'aller le jour de la fête des mères avec des œillets blancs pour aller porter ça sur la tombe. C'est une très belle façon de connecter avec votre Dieu et remercier Dieu de vous avoir donné cette maman-là. Parce que quand Dieu donne une mère, il donne le sentiment à un poupon, c'est quoi d'être aimé et sécure dans les bras d'un plus fort que nous. Et c'était la représentation de Dieu, de l'amour de Dieu envers vous. Si maman ne l'a pas fait, c'était quand même ce qui vous était destiné. Et à cause de cet honneur qui lui a été donné, même si elle ne l'a pas fait, elle est digne de cet honneur-là. car elle doit rendre des comptes aussi pour le fait qu'elle ne l'a pas fait. Donc, c'est un grand respect parce qu'elle a des comptes à rendre à son Dieu d'avoir été pour vous la manifestation de la sécurité et de l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous autres. J'espère que l'amour de Dieu a pressé sur votre cœur, puis le Saint-Esprit qui est en vous va vous motiver à faire des gestes concrets pour parler la langue de l'autre. Bonne fête des mères. On vous prie. Seigneur, je veux te remercier d'être un père au cœur de mère. Que quand tu as créé l'homme et la femme, tu les as créés incomplets pour qu'on puisse voir dans la mère quelque chose de bien particulier à propos de ton amour pour nous. Merci pour nos mères, Seigneur. Merci pour ton plan, Seigneur Dieu, de nous donner des parents. De créer un milieu familial où on pourrait grandir de façon sécure en sachant que tu nous aimes et que tu nous protèges. Merci pour le pardon qu'on trouve à la croix, Seigneur. Merci que ce tueur qui avait reconnu ses péchés, tu étais fidèle et juste pour le pardonner. Puis lui promettre que tu serais avec lui dans le paradis cette journée-là. Tu nous dis dans ta parole que si on a été pardonné, on peut pardonner aussi ceux qui nous ont offensés. Et je te prie, Seigneur, peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de pardonner des choses. Il y en a d'autres qui ont besoin de se faire pardonner. Mais Seigneur, à cause de la grande valeur que tu as donnée à l'autre, aide-moi, Seigneur, à aimer comme tu m'as aimé. Aide-nous à découvrir des langages qui ne sont pas les nôtres, afin qu'on puisse parler le langage de l'autre, pour que nos mères sachent et sentent qu'ils sont aimés. Si je suis une mère aujourd'hui, peut-être que tu souffres le manque de reconnaissance de tes enfants. On nous dit des fois que c'est juste à l'âge de 35 ans que les jeunes vont commencer à réaliser, quand eux-mêmes ils vont avoir des enfants, tout ce que tu as fait pour eux autres. C'est très ingrat d'être parent. Mais ton Dieu est fier de toi. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, on veut célébrer le fait que tu es une mère et que tu as donné tes meilleures années pour un poupon, des poupons. Peut-être que tu penses à tes enfants qui sont loin du Seigneur puis qui ne vivent pas une vie consacrée à ton Dieu. Ben Dieu écoute tes prières. Puis peut-être que tu es un enfant puis le plus beau cadeau, tu te demandes c'est quoi? Mais si ta mère est chrétienne, le plus beau cadeau que ta mère peut savoir, c'est d'avoir un fils comme Jean, chrétien, qui connaît son Dieu. Puis si ta mère ne connaît pas le Seigneur encore et n'est pas sûre qu'elle va au ciel, mais comme Marie au pied de la croix, ce qu'elle a besoin, c'est d'accepter Christ pour être sauvée, pour avoir la vie éternelle. C'est le plus beau cadeau qu'elle peut pas avoir. C'est pour ça que Jésus a donné Jean comme fils à Marie. Et si toi-même, tu n'es pas sûr que si tu meurs, tu vas au ciel avec Dieu, Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement qu'il a payé un prix tellement cher. On l'a craché dessus, on lui a arraché la barbe, on lui a mis un drap sur la tête, puis on a dit, « Ah, devine qui t'a frappé. Tu dis que t'es Dieu, t'es supposé tout savoir. » Sur la croix, on l'a cloué, puis on a dit, « Si t'es Dieu, jette-toi en bas. T'es supposé être capable de tout faire. » Mais Jésus s'est laissé maltraiter. Il a livré son dos à ceux qui le flagellaient avec des boules de plomb, lanières de cuir et os lacérés au bout pour labourer son dos. Tant que Pierre disait que son dos était une meurtrissure dans l'original. Son dos était une meurtrissure. Il a dit à ses disciples, « Je pourrais dire aux anges de venir puis de me délivrer dans le jardin de Gethsémané quand les 600 soldats sont arrivés. » Mais il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Serre ton épée. T'as pas besoin. On n'a pas besoin de se battre ici. Il a offert aucune résistance. Parce qu'il aimait mieux mourir pour toi que de vivre l'éternité sans toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de te laisser aimer par ton Dieu et d'accepter sa mort à la croix comme paiement pour ta dette. Si tu acceptes ça, La Bible dit que celui qui a été jugé, c'est Christ. Et toi, tu ne seras pas jugé. Le moment où tu vas mourir, tu vas aller au ciel avec Dieu. Puis avec ta mère, avec, qui va être ta sœur, si elle a accepté Jésus-Christ. Si tu veux faire la paix avec Dieu, tu n'as pas besoin de faire des bonnes œuvres. Le gars sur la croix n'a pas eu le temps de faire des bonnes œuvres. Il est un tueur, puis il a passé de tueur à sauver. Tu as juste besoin d'accepter le cadeau, comme ce gars-là à la croix. Qu'est-ce que tu dois faire? Simplement reconnaître que tu es pécheur, que tu as besoin d'un sauveur, d'accepter que Christ a payé ta dette, puis de l'inviter comme ton sauveur. En faisant cette prière qu'on va faire à voix haute, comme un geste de courtoisie, parce qu'on a l'habitude de le faire, puis pour pas qu'une personne qui la ferait seule se sente seule dans ça, c'est aussi une façon de montrer que nous l'avons aussi déjà fait et que tu ne seras pas le ou la seule à le faire. Si vous nous écoutez sur enregistrement, faites-le dans votre salon, là, présentement, en répétant cette prière avec nous. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu m'aimes et que tu as payé un grand prix sur la croix, que tu as été puni pour mes péchés, que tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. J'accepte ton pardon. Sauve-moi, au nom de Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là pour la première fois, tournez-vous, vous tournerez plus tard dans la journée pour le dire à quelqu'un. Amen. J'ai accepté Jésus-Christ. Ou à la personne que vous invitez, ou vous êtes sur enregistrement, dites-le à quelqu'un. Actualisez, rendez. C'est pas que ça va officialiser la chose, parce que ça a eu lieu si vous aviez la foi. Par contre, ça va concrétiser le geste que vous êtes en train de faire. Je prie, Seigneur Dieu, que tu bénisses chaque personne, Seigneur Dieu, qui a écouté ta parole aujourd'hui avec patience. Je prie que cette parole-là puisse venir faire un travail et que ton Esprit Saint puisse venir nous motiver à aimer mieux et aimer de ta manière, Seigneur, ceux qui nous entourent, et particulièrement nos mères. Bénis les mamans ce matin, au nom de Jésus. Amen. Mes chères mamans, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chères mamans, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Chères mamans. Yeah! On a une bonne main d'applaudissements pour les mamans.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.